Nous connaissons tous l'apôtre Paul. Et Paul est souvent reconnu pour ses lettres dans lesquelles la doctrine est prédominante. Et même l'apôtre Pierre, qui était quand même apôtre, parle des lettres de Paul et il dit que dans les lettres de Paul, il y a des choses difficiles à comprendre. Ça signifie que il y a des choses difficiles à comprendre dans l'Écriture. Et il ne faut pas s'empêcher de s'exposer à ces choses-là. Il faut essayer de comprendre parce que si c'est révélé, c'est bon pour notre marche chrétienne. Mais il y a une lettre qui se démarque, particulièrement, c'est celle de Philémon. Parce que ce qu'on lit dans cette épître-là, ce n'est pas tellement théologique, même si on sent que la théologie de Paul détermine sa conduite et ses exhortations. Alors, Paul écrit cette épître à Philémon. Le nom Philémon signifie celui qui est aimé. Et Philémon est venu à l'Évangile sous le ministère de Paul. Philémon vivait assez confortablement, il était même riche. Sa maison était suffisamment grande pour y tenir des cultes. Et Philémon avait aussi des esclaves. À cette époque, un esclave était pratiquement l'équivalent d'un employé domestique de nos jours. Et là arrive une situation qui aurait pu tourner au vinaigre. Vous savez qu'il y a toutes sortes de situations qui arrivent dans nos vies et nous ne connaissons pas celles à venir. Et ce qui va faire la différence, ce n'est pas la circonstance comme telle. C'est comment allons-nous réagir? Comment allons-nous réagir dans telle circonstance? Deux personnes qui peuvent vivre exactement la même circonstance, on voit par exemple Judas et Pierre, les deux ont trahi Jésus. Qu'est-ce qui a fait la grande différence? Judas a eu des remords, c'est resté là. Pierre s'est repenti. Philémon vit une situation. Que fera-t-il dans cette situation? Alors, je vous résume la situation parce que nous ne lirons pas toute l'épître. Alors, Philémon est un chrétien et il y avait plusieurs esclaves et l'un d'eux, Onésime, s'est enfui, ce qui était contraire aux lois. Et non seulement il s'est enfui, mais il avait pris soin auparavant de voler son maître. Onésime n'était pas un bon garçon. Il s'est ramassé en prison. Et comme Dieu ne prépare pas toujours les rendez-vous dans les salons, Onésime fait la connaissance de Paul en prison. Paul était là pour avoir évangélisé. Onésime était là pour avoir volé. Donc, on est en situation trois chrétiens au moment où Paul écrit son épître. Alors, Philémon qui est lésé dans ses droits, son esclave qui jadis lui a volé et qui donc s'est enfui. Il a certainement reconnu avoir mal agi, Onésime, donc l'esclave a certainement reconnu avoir mal agi, puisqu'il en a parlé avec Paul. Il s'est converti et il doit maintenant remettre à Philémon ce qu'il a pris. Mais comme il était esclave, il était pauvre, il ne pouvait pas remettre sa dette. Et donc, on a Philémon, le maître qui est volé, Onésime, l'esclave qui a volé, qui s'est enfui, qui s'est converti par la suite. Et il y a Paul qui regarde ça. Et on va voir chez Paul un bon leader. Il reconnaît les droits de Philémon, mais il voit aussi la situation pénible dans laquelle se trouve Onésime. Et on va voir comment les réalités du salut peuvent intervenir dans une telle situation. Autrement dit, comment mettre en action concrètement les réalités du salut? Peut-être qu'on a déjà vécu des situations où nous avons été lésés dans nos droits. Et parfois, il est bon que nos droits ne passent pas en premier. Même, je pense qu'il est toujours bon. quand on veut que la justice s'applique, j'espère que ce n'est pas nécessairement parce que c'est mon droit, mais parce que c'est la meilleure chose dans la situation. Donc, c'est une épître qui nous montre comment réagir en fonction de notre appartenance à Jésus-Christ. Donc, nous allons faire une première lecture des 7 premiers versets. Philémon. Je ne dirais pas chapitre 1, il y a juste un chapitre. Donc, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur, ainsi qu'Appia, notre sœur, Archippe, notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières. Car j'entends parler de l'amour et de la confiance que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste. Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Paul commence par reconnaître les qualités de Philémon. Et ce sont des qualités qui ne sont pas négligeables quand même. Et Paul va compter sur ces qualités, mais pas des qualités qui sont propres à Philémon comme individu, mais c'est vraiment des vertus qui se sont développées dans la sanctification. D'abord, au verset 4, quand Paul prie pour Philémon, ce sont des actions de grâce. Et ces actions de grâce viennent du fait que les nouvelles de Philémon qui parviennent aux oreilles de Paul le décrivent comme un frère qui fait réellement preuve d'amour et de foi. Et pas d'un amour superficiel. Le mot grec employé est réservé à l'amour qui est total et inconditionnel, ce qu'on appelle l'amour agapé. Et c'est exactement le mot qui est utilisé pour décrire l'amour de Dieu pour son peuple. Et remarquez au verset 5 comment l'amour pour le Seigneur est indissociable de l'amour pour les frères et sœurs. Car j'entends parler de l'amour et de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent. Les frères et sœurs, c'est l'Église et l'Église, c'est le corps du Christ. Nous ne pouvons pas dire j'aime la tête, mais je n'aime pas le corps. J'aime le Père, mais je n'aime pas sa famille. Ça ne fonctionne pas. Moi, si quelqu'un disait, je t'aime beaucoup, mais ta famille, je ne l'aime pas, on passera. Je ne peux pas avoir une bonne relation sur cette base-là. M'accueillir implique inévitablement accueillir ma famille. C'est la même chose avec Dieu. Si nous disons aimer Dieu, automatiquement, ça implique que nous devons avoir un amour pour les frères et sœurs. Si nous ne sommes pas capables d'aimer nos frères et sœurs que nous voyons, l'apôtre Jean est clair, nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas. Il y a une équation directe à faire. Paul va asseoir sa requête au Onésime sur cette foi et cet amour. Paul n'emprunte pas la voie du légalisme. Il ne dit pas la Bible dit, tu dois. Il emploie la voie de la communion, celle de l'amour. Celle de la compréhension, c'est-à-dire la compréhension au sens de l'exposition de ce qui est bien. Mais en laissant à Philémon le soin de tirer sa conclusion lui-même. La foi et l'amour dont Paul fait mention, ne sont pas des notions indéfinies. Ça doit s'incarner concrètement dans la vie. Croire en Dieu, c'est aussi croire en son plan. Et qu'est-ce que le plan de Dieu, comment le plan de Dieu peut aider Philémon dans la décision qu'il aura à prendre? Finalement, c'est C'est ça la réflexion que Philémon doit faire. Et Philémon doit croire aussi aux institutions divines, dont l'Église. Puisqu'il a la foi en Dieu, ça veut dire qu'il doit considérer l'Église comme Dieu la considère. Non pas à travers ses blessures, sa frustration d'avoir été volé, par exemple, d'avoir été trahi. Il ne doit pas regarder Onésime à travers ses blessures. Et on fait souvent l'erreur. Hein? Nous sommes blessés, on a reçu des mots difficiles de la part d'un frère, une sœur, une injustice. On a tendance à regarder ça directement plutôt que de dire non, ça c'est. Je ne dois pas regarder la situation à travers ma frustration, ma blessure, mais plutôt comment Dieu voit la situation. Parce que c'est ça la seule perception qui est vraie, c'est comment Dieu voit les choses. J'endosse totalement la confession de foi que l'on appelle le symbole des apôtres. Et qui dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli. Il est descendu aux régions inférieures. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant et il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint. Jusque-là, ça va bien. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints. Non pas que ma foi est placée dans l'Église. C'est plutôt que je crois que l'Église est le lieu voulu et institué par Dieu pour le chrétien. Jésus en fait son propre agent. Et c'est ça que Philémon doit considérer. Croire en Dieu, c'est aussi croire que l'Église, c'est ma famille. C'est aussi croire que si j'appartiens à Jésus-Christ, j'appartiens à chaque membre de l'Église. Nous nous appartenons les uns les autres. De sorte que si un souffre, tous les membres souffrent. Ce ne sont, les relations fraternelles ne sont pas des relations superficielles. Ce sont les relations les plus profondes, je dirais. Et c'est ça qui fait que souvent, de là viennent les blessures les plus profondes. Si c'est le huitième voisin qui m'envoie promener, c'est pas très agréable, mais ça fait pas de dommages beaucoup. Mais si c'est un frère qui m'envoie promener, ça fait plus mal. Et Paul amène Philémon à considérer. Tu crois en Dieu. Tu crois en son plan. Tu crois en l'amour de Dieu, tu manifestes l'amour, et bien, je veux t'amener plus loin. Tu dois croire en ces institutions aussi. Tu dois croire que l'Église est le corps du Christ. Tu dois croire en ses promesses. Parce que la foi, les convictions, même au grec, la foi, c'est ça qui dirige nos actions. Au verset 5, on voit que la foi, plutôt que l'amour vient de la foi. Et ça se traduit par des actions. Pas d'action, pas de fruits, c'est inquiétant. À l'inverse, il n'y a pas de fruits réels et valables sans une foi authentique. Les deux sont liés dans un mouvement de cause à effet. Si les fruits ne sont pas bons, si les pommes ne sont pas en santé, ça ne donne à rien d'aller chez Rona pour acheter une canne de vernis, commencer à mettre du vernis, c'est-à-dire de commencer par mettre une peinture rouge sur les pommes qui ne sont pas belles, puis mettre du vernis pour qu'elles aient meilleure apparence. On ne traite pas de mauvais fruits en s'attaquant aux fruits, mais il faut regarder l'arbre. Où est planté l'arbre? Comment je nourris l'arbre? C'est ça qu'on doit regarder. Il n'y a pas de fruit réel et valable sans une foi authentique. Et je pense que le verset 6 est la clé de cette première section. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui, pour nous, est le bien en vue de Christ. Pas en vue de ton droit, pas en vue de ton apaisement, de tes frustrations, mais en vue de Jésus-Christ. que sa foi devienne agissante. N'est-ce pas là une prière qu'on devrait tous s'adresser? Que ma foi devienne agissante. Est-ce que ce sont mes émotions qui agissent? Est-ce que ce sont mes passions qui sont agissantes? Est-ce que ce sont mes caprices, mes frustrations, mes priorités, mes loisirs, mes critères, mes goûts, ou si c'est ma foi? Tout ce que je vous ai dit avant, on appelle ça la vieille nature. Finalement, est-ce que c'est moi qui suis sur le trône de ma vie ou si c'est Jésus-Christ? Une foi agissante, c'est la vraie foi. L'apôtre Jacques dit que la vraie foi donne ses fruits. Une foi sans fruits, c'est une foi qui est morte. La foi détermine mes actions, mes décisions. Et ça implique que je refuse que ce soit mes émotions, mes goûts, mes caprices. Bref, je ne veux pas que ce soit ma chair qui dirige ma vie, mais ma foi. Donc, Paul invite Philémon à agir dans cette perspective. Traiter Onésime, non pas sur la base des droits personnels. Philémon avait un droit légitime et Paul le reconnaît. Légalement, tu pourrais exiger que Onésime te rembourse. Tu pourrais le poursuivre en justice. Maintenant, il s'est converti. Ça n'ôte pas les responsabilités d'Onésime. La conversion, on a déjà entendu ça. Je suis en Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, donc le tort que j'ai fait avant ma conversion ne compte plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Onésime s'est converti, il y avait encore un Dieu, même si le vol a été fait avant sa conversion. Paul invite Philémon à voir les choses autrement. Non pas à partir de lui-même, mais à partir de Jésus-Christ. Le verset 7 est un verset qui m'a toujours parlé. À cause de ton amour, par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé, ou réconforté, apaisé. Quel beau verset. Grâce à toi, l'amour que tu manifestes, le soin que tu prends, des frères et sœurs, bien, le cœur des saints a été tranquillisé. Quelqu'un qui réussit à avoir un tel impact dans toute une communauté. Ça peut supposer que Philémon était très généreux. Parce qu'on sait qu'il était riche. Il a peut-être pris soin des pauvres de l'Église et qui est un réconfort, pas juste pour les pauvres eux-mêmes, mais ça peut être pour les proches de ces pauvres-là, pour les frères et sœurs qui voient qu'ils sont pris en main, qui s'inquiètent moins parce qu'il y a quelqu'un qui prend soin d'eux. Bref, le cœur des croyants a été tranquillisé. Nous allons lire la deuxième section, à partir du verset 8. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, on sent ici... Les sandales apostoliques. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, étant ce que je suis, moi, Paul, un vieillard et de plus maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant il est utile à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place alors que je suis en prison à cause de la bonne nouvelle. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est tellement pour moi. combien plus le sera-t-il pour toi en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur. Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ces dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi tu as une dette à mon égard, c'est ta propre personne. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour du Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente. Et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi une chambre. J'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Épaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer, de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Alors, versets 8 et 9, Paul dit clairement, même si c'est à mots couverts, qu'il ne se présente pas à Philémon avec l'autorité apostolique. Il dit, j'aurais pu le faire, mais ce n'est pas ce que je veux. Il dit, je me présente à toi avec l'amour. Ma requête est une requête basée sur l'amour. Au verset 10, Paul dévoile ce qui l'unit à Onésime. C'est Paul qui a amené Onésime à l'Évangile. C'est ce que certaines traductions ont engendré. Et c'est justement alors que Paul est en prison qu'il a l'occasion d'amener Onésime à l'Évangile. On peut voir que Dieu utilise le mal, on voit ça dans Genèse 50 aussi, Dieu utilise le mal et il le tourne au bien. Ici, Onésime a volé, il s'est enfui. Finalement, il a certainement fait d'autres conneries. Il se ramasse en prison. Il a fait le mal et Dieu utilise ça, il le mène en prison et c'est là qu'il rencontre Paul et qu'il se convertit. Et Paul demande à Philémon de considérer cela. Peut-être que c'est arrivé, peut-être que tu l'as perdu dans ces circonstances-là, pour le retrouver comme un frère. Et Paul a beaucoup d'affection pour Onésime. Et il le présente comme une partie de lui-même, verset 12. Et il intercède maintenant pour ce frère vis-à-vis Philémon. D'une part, Onésime a changé. Autrefois, il était inutile à Philémon, et on peut comprendre, un esclave qui s'enfuit après avoir volé son maître, ou si ça peut donner l'idée à d'autres. Mais Paul lui dit que maintenant, il a changé. Il te sera bien utile. D'ailleurs, le nom Onésime signifie utile. Pourquoi est-ce qu'il sera utile maintenant? Parce qu'il s'est converti. Onésime a changé. Quand une personne se convertit, nous ne devons pas le traiter selon sa réputation passée. La personne s'est convertie. Quand Paul s'est converti, les apôtres se sont dit non, non, c'est impossible, c'est un piège pour nous capturer. Et c'est Barnabas qui est allé chercher Paul, qui en a pris soin, puis qui l'a présenté aux apôtres. Et Barnabas a compris que quand Dieu sauve quelqu'un, il change la vie de la personne. Donc, on est toujours dans cette situation où Philémon est lésé, il a des droits, Onésime a mal agi, il s'est converti, et Paul essaie de voir quelle sera la meilleure décision qui ne repose pas sur lui, qui repose sur Philémon. Tout repose sur Philémon. Si Philémon s'endurcit, s'entête, décide de laisser parler ses frustrations, ses émotions, tout est gâché. Que fera Philémon? Malheureusement, l'Épître ne nous le dira pas. Mais on peut présumer parce que Paul bâtit tellement sur les vertus qui sont déjà en Philémon. Paul reconnaît qu'Onésime doit trouver la réconciliation avec Philémon. On ne doit pas fuir les situations. On doit les affronter, faire face de façon responsable à la lumière de l'Écriture. C'est la seule voie. Et on voit le changement d'Anésime du fait qu'il est prêt à rencontrer Philémon. Lui qui avait fui, maintenant qu'il s'est converti, il est prêt, puisque Paul offre cette possibilité de revoir Philémon. Paul rajoute à Philémon, il lui dit, tu seras davantage gagnant de l'accueillir comme un frère que de l'accueillir comme un esclave. Tu ne seras pas perdant. Tu seras gagnant. Ce n'est pas sur le plan financier, mais pour la cause de l'Évangile et aussi relationnellement, de se savoir réconcilier avec un frère. Si Philémon avait décidé de s'endurcir, ça reste longtemps après ça. Quand on s'endort le soir et qu'on se dit, il y a un frère à qui j'aurais pu pardonner, il avait besoin, j'avais la capacité de faire grâce et je ne l'ai pas fait. Et maintenant, bon, à l'époque, il n'y avait pas Facebook. C'est pas évident de retracer une personne. La personne est rendue où? Et on découvre un Paul qui, je dirais pas qu'il a laissé tomber la doctrine, mais il en parle abondamment de la doctrine dans ses autres épîtres. Mais ici, on le découvre en train de vouloir mettre en application toute la doctrine qu'il prêche dans ses épîtres. On découvre un Paul qui, si parfois il paraît intransigeant, et je pense que lorsque vient le temps de présenter la vérité ne doit pas être présentée comme quelque chose d'optionnel, de relatif, mais la vérité, elle doit être présentée. L'homme est pécheur. On relative. L'homme est pécheur. C'est une vérité, on la présente comme ça. Ici, cet incident-là nous permet de découvrir un Paul plein de compassion. Et c'est pas qu'il a décidé d'agir autrement. Paul a toujours été un homme de compassion. Il le dit dans plusieurs épîtres. J'aimerais être anathème pour mes frères. J'aimerais être séparé du Christ pour mes frères. C'est quelque chose. Il dit ça dans son épître la plus doctrinale, celle aux Romains. On voit dans sa prière pour, je pense que c'est les Éphésiens, les Colossiens, sa prière pleine de compassion. À chaque épître, Paul dit, « Grâce et paix vous soit rendue, que le Seigneur vous bénisse, je prie pour vous, etc. » Je pense que c'est au Galates qu'il manifeste son appréciation pour l'accueil qu'il avait reçu. Paul est un homme de compassion. Il a préféré fabriquer des tentes pour ne pas être à la charge de personne. C'est un choix qui reposait sur son souci des frères et sœurs. Maintenant, il est en prison, un vieillard, et au lieu de s'apitoyer sur lui-même, vous savez, les prisons à l'époque, ce n'était pas des clubs med comme aujourd'hui. Il y a 25-30 ans, je jouais du piano à la prison Tanguay, une prison pour femmes. Et je mangeais sur place. Et on arrivait à la cafétéria, et disons qu'il y avait du poulet pour souper. Et si je disais, j'aime pas le poulet, eh bien, il y avait un deuxième choix à côté. Pour ceux qui n'aiment pas le poulet, j'ai toujours dit à mes enfants, vous avez deux choix à chaque repas. Vous mangez ce que maman a fait ou vous vous en passez. Mais en prison ici, il y a deux choix. Puis là, on parle d'il y a 25-30 ans. À l'époque, c'était pas ça. C'était des cachots, c'était aucune hygiène, c'était parmi la vermine, la poussière. C'était horrible. Et Paul est un vieillard, puis il est pris dans ça. Et Paul, est-ce qu'il s'apitoie sur lui-même? Non. Son cœur est tourné vers Onésime et vers l'Évangile aussi, le bien de l'Église. On sent au verset 21. Est-ce que quelqu'un peut relire le verset 21, s'il vous plaît? Le premier qui l'a.
Et en me fiant ton obéissance, je te prie, sachant que tu seras même au-delà de ce que je suis.
C'est ça. Alors, Paul sait d'avance, donc on peut tirer la conclusion que Philémon a eu la même pensée que Paul. Paul sait d'avance que Philémon va acquiescer. Pourquoi est-ce que Paul lui écrit cet épître-là avec toute l'argumentation? C'est parce que la décision revient à Philémon et que la miséricorde que Philémon va manifester, ça doit être l'expression de sa foi et de son amour. Alors, Paul laisse la décision à Philémon. C'est intéressant dans le leadership, ça. On n'est pas là pour décider à la place du monde. Le pasteur n'a pas contrôlé la conscience des individus. J'ai assez de ma propre conscience que j'ai peine à contrôler si jamais j'y parviens. Le pasteur n'est pas là pour diriger la conscience des individus. La conscience du chrétien est liée par l'Écriture et l'Écriture seule. Le Seigneur utilise des pasteurs enseignants, il utilise les exhortations des frères et sœurs, mais la conscience, votre conscience est liée par l'Écriture et l'Écriture seule. Alors, quelques applications. Évidemment, il y en a que j'ai effleurées. Paul, un bel exemple de quelqu'un qui ne s'apitoie pas sur son sort. Il n'est pas au centre de sa propre vie. C'est le Christ qui est au centre. Et la cause de l'Évangile. On voit chez Paul, et il invite Philémon à faire la même chose, un refus de regarder les choses à partir de lui-même, à partir de ses blessures, de ses souffrances, de ses frustrations. Paul sait très bien que la vie, même la vie du chrétien, est parsemée d'épreuves, de difficultés. Je sais que parfois on entend que une présentation de l'Évangile du genre « Viens à Jésus, il va régler tous tes problèmes ». J'aimerais vous dire que les disciples ont commencé à avoir des problèmes lorsqu'ils se sont convertis. La vie était belle avant. Petit emploi, petite famille, petite maison. Ils se convertissent. Les persécutions, renoncer à si. Hein? Alors, Paul sait très bien que la vie chrétienne est parsemée d'épreuves. Il y avait toutes les raisons pour se plaindre. Et même pour interpréter. Par exemple, Dieu m'a abandonné. Je donne ma vie à Dieu. J'ai renoncé à tout. J'ai annoncé son nom et je me retrouve en prison. C'est tout ce que tu as pour moi? C'est comme ça que tu me remercies? Non. Paul n'interprète pas Dieu à partir de lui-même. Rappelons-nous Joseph dans l'Ancien Testament. Quelle vie d'épreuve! Il faut se mettre dans la peau du personnage pour voir que c'était horrible. Il est vendu par ses frères, un rejet de sa propre famille. Il est chassé loin du pays de l'Alliance, du pays de la promesse, vendu à une nation qui parle une langue étrangère, qui a une religion étrangère. Et pire, il se ramasse sous les fausses accusations avec la femme de Potiphar. Il se retrouve en prison et il persévère, continue à faire ce qui est bien. Et il interprète des rêves et les prisonniers disent « On va se rappeler de toi quand on sera libéré. » Finalement, lorsque les prisonniers sont libérés, ils oublient Joseph. Quelle souffrance! Et Joseph a été persévérant. D'où venait la force de Paul? Dans sa compréhension de l'Évangile et dans sa relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est important de connaître et de comprendre l'Évangile, de comprendre comment Dieu travaille. Paul avait aussi comme souci l'Église. C'est une fixation. Si on relit les épîtres de Paul, on voit ça comme une fixation. Paul est en prison, au lieu de se dire, ben là, Seigneur, je pourrais évangéliser ici, je pourrais faire sinon, je suis en prison, comment je peux te servir dans le contexte dans lequel tu me places? Bien, je vais prier pour mes frères et sœurs, et je vais écrire des épîtres, je vais leur écrire. Il ne cherchait pas à faire... Paul ne se demandait pas ce qu'il pourrait faire s'il était dans d'autres circonstances, mais plutôt, qu'est-ce que je peux faire dans les circonstances dans lesquelles Dieu m'a placé? Pour Onésime, ben, on sent chez lui que son cœur est vraiment transformé. Il reconnaît qu'il a fait une faute, puisqu'il en a parlé avec Paul, et il est disposé à retourner voir Philémon, ce qui ne devait pas être facile. Hein, il se laisse diriger. Il prend conseil auprès de Paul, et lui aussi ne marche pas par ses propres émotions, mais il fait confiance en Paul, qui est un leader, même si ça va contre ses émotions à lui. Il se dit, bien, Paul, tu es un homme d'expérience, etc. Il a peut-être raison. Je vais l'écouter. Et il veut que sa vie ne soit pas entachée par des problèmes. Il est prêt à régler, un peu comme Zachée. Celui qui se repent réellement va vouloir réparer ses erreurs. En ce qui concerne Philémon, comme j'ai mentionné, Paul pouvait compter sur ses qualités. Et la grande leçon de cet épître-là, la première, je l'ai mentionnée, finalement, il y en a deux, de ne pas vivre selon nous-mêmes, selon nos pensées, nos frustrations. La deuxième, c'est de se traiter comme Christ nous a traités. Quand arrive une situation, alors, lui m'a fait telle chose, je dois réfléchir en me disant, on va faire semblant que moi, je suis à sa place et que moi, j'ai fait ça au Christ. Comment le Christ me traiterait-il? Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu de pardon, un Dieu patient, un Dieu de miséricorde? Eh bien, nous devons être patients, être des personnes qui appliquent la grâce, des personnes de miséricorde. Paul a même dit à Philémon, s'il te fait du tort, mets ça sur mon compte à moi. N'est-ce pas ce que le Christ a fait? Nous avons offensé Dieu. Et le Christ a pris ça sur son compte. La dette, là, c'est moi qui l'ai. Et on doit être prêt dans les frustrations, si on est lésé, etc., de dire, je suis prêt à prendre la dette de l'autre. Je suis disposé à ça. Pour la cause de l'Évangile. Et pour le bien de mon frère qui ne peut pas supporter ça. Il a volé, il ne travaille pas, il n'est pas capable. Je dois être prêt à porter les conséquences de ce qu'il a fait. Par miséricorde, comme Dieu a fait. Vous savez que comme réformé baptiste, il y a un danger, et c'est un danger qui guette, je dirais, pratiquement toutes les églises réformées, de tomber dans une académisation de l'Écriture, une approche purement intellectuelle, mais uniquement intellectuelle. On ne doit pas supprimer l'aspect intellectuel. Combien de reprises c'est marqué « sachez, comprenez hein? ». Il y a le renouvellement de l'intelligence, etc. Les notions, la vérité, doit passer par le canal de l'intelligence, ce qui demande un effort de compréhension. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut qu'il y ait cette mise en pratique. il faut que ça passe de l'intellectuel, je dirais, au cœur, parce que Dieu transforme les cœurs et que ça débloque, que ça débouche sur des actions. La grâce que nous devons appliquer les uns envers les autres. Que le Seigneur bénisse sa parole.